donc, moi j'ai gardé l'ordre des mots parce que là, les deux sont des prénoms, donc ça peut créer la confusion. Et je commence en commentant là que c'est vraiment quelqu'un de très polyvalent. Donc il parle un peu dans tous les sens. Et peut-être que moi je ferai la même chose, forcément, conformément au sujet, en disant que c'est vraiment quelqu'un qui s'est mêlé de tout. Donc une petite liste là, il était poète, dramaturge, romancier, nouvelliste, journaliste, publiciste, parolier, auteur de sketchs, de traducteur littéraire aussi, et qu'il est, enfin, lors de toute sa carrière, il a navigué entre les extrémités. Ça veut dire que là, il y a un seul point solide, c'est qu'il a toujours été progressiste, il a fait face à tous les régimes, tout en restant de gauche. Mais il est venu d'en bas, ses origines sont très très modestes, une famille pauvre habitant un petit village, et c'est grâce à ses capacités intellectuelles brillantissimes là, qu'il est devenu après quelqu'un de très versé là, dans toute forme de la littérature et du journalisme aussi. Donc il était d'ailleurs un érudit qui était à la fois, il a commencé à faire des études à la fac de Budapest et puis après il a laissé tomber et devenu autodidacte, mais assez génial parce que là il a fait des traductions de 6 langues et il connaissait aussi le grec et le latin, donc il n'a rien traduit, mais quand même. Alors pour vous donner une idée là de ces entreprises intellectuelles, c'est qu'à 19 ans, il avait gagné un concours de traduction avec la chanson de Roland, enfin rien que ça, et après il s'est lancé dans la traduction de l'épopée de Frédéric Mistral, Mireille, et donc il a appris le provençal forcément, là, enfin par son... de lui-même, enfin, en faisant des lectures un peu partout et en étudiant là son maître, il faut dire. Et dans sa carrière, donc il y a au moins 3-4 grandes langues et cultures, enfin, qui ont marqué sa production, dont par exemple les sketchs de cabaret, genre chanois, Kadzar et compagnie, le vaudeville français, dont je dirais quelques petits mots justement, et puis les grandes littératures russes. Il a traduit Gorki par exemple, d'ailleurs c'est lui qui a traduit l'hymne national soviétique aussi, pour vous montrer les couleurs très rouges là du personnage. Mais et il a fait de l'anglais, de l'allemand et du français. Il a traduit aussi Balzac, Maupassant et beaucoup, beaucoup de poésie. Par exemple, dans la poésie, c'était des Baudelaire, Verharen, Maupassant, Flaubert. Je vous donne quelques petits exemples. Le Comte de Lille, par exemple, Parfum impérissable, c'est lui, le premier. Puis Verharen, Heure d'automne, Les meules qui brûlent, Le vent et tout ça. Bon, sa carrière, disons, pas politique, mais quand même l'arrière-plan politique, ça c'est assez intéressant aussi, parce que là, comme anti-militariste, pacifiste et homme de gauche, il avait participé à la République des Soviets aussi, emprisonné, relâché, et il vient après des émigrations successives, où il apprend beaucoup de choses, forcément, dont des langues aussi. Donc, il commence les émigrations à Vienne, où il est journaliste expulsé. Ensuite, va à Paris, 2 ans, là aussi expulsion. Va s'installer à Berlin, journaliste expulsion. Et après, il va à Moscou, il passera 12 ans là, en Union soviétique. Et on se demande comment il a survécu d'ailleurs, enfin, un homme de gauche pareil, enfin, ça c'est quand même... Donc, moi je dirais que c'est un peu comme Lukács qui a dit que s'il a survécu là où... Enfin, s'il a survécu là au régime stalinien et n'a pas été déporté, c'est qu'il était mal logé. Donc, Gaborando devait être la même chose. Et puis, il est revenu donc en 1945 et il a continué, enfin, toutes ses activités... absolument enthousiaste en matière de journalisme, littérature, traduction, etc. Alors, pour la carrière littéraire, donc, il était parolier, etc. Et il a écrit 3 romans. Et le, disons pas le prétexte, mais le sujet principal, parce que là, je n'ai pas tellement, enfin, fait des recherches sur ces... et ses relations avec le vaudeville, les sketchs de cabaret, etc. Mais pour Momencier, il a écrit quelque chose dans les 3 romans. Ça, c'est un portrait fait à Berlin, mais après la guerre. Et ça, il était dramaturge à succès, incroyable. Ça, c'est une pièce qui est toujours jouée, d'ailleurs, enfin, avec des rôles tout à fait gratifiants, les actrices. Et donc, Voyol Gysi, qui est une très grande actrice. Mais enfin, si on le connaît, c'est aussi parce que Dola Papa, ça c'est l'oncle d'Amérique à peu près. Ça c'est passé dans les formules quotidiennes, dans la langue, dans les esprits. Il y a beaucoup de pointes enfin, qui sont citées, etc. Je fais une. Voilà, c'est l'affiche du film, encore une autre scène. Mais aussi, donc, je viens avant de passer là, au roman Dr. Shenki, qui sera le sujet principal de l'exposé, c'est que moi, j'ai appris en faisant des études sur lui que la princesse Chardash, le comte de Luxembourg, la veuve joyeuse et tout ça, c'est lui qui a fait les paroles en hongrois. Donc, si par exemple vous avez le Roy Maché Peter, Roy Maché Pâle, ou si vous savez, c'est Gabor Andor. Et enfin, j'ai fait une petite enquête autour de moi. La plupart des gens pensent que c'était rédigé en hongrois. Et c'est tellement bien que ça s'est passé dans la langue. Donc, s'il est un peu tombé dans l'oubli en tant qu'auteur, il est caché. Pas sous des pseudonymes, mais il est caché, mais intégré là dans la mentalité aussi, mais surtout enfin dans la culture de tous les jours. Donc pour en venir là à son roman, ça c'est Dr. Shenki et bon, ça c'est Princesse Chardash, Sylvia, voilà. Alors langue d'origine pour Chardash Kinaneux, c'est allemand et ça a été déjà le comte de Luxembourg. Avec Falaki quand même. Voilà. Alors, le Dr. Shenki, c'est un roman qui a été beaucoup, beaucoup. Ça, c'est d'autres scènes. Moïdovica, ça aussi, c'est tout à fait. Donc, il a été réédité dans les années 50-60 jusqu'aux années 80 à peu près. Et actuellement, on ne parle pas beaucoup de lui. Donc, toutes les éditions, enfin, que j'ai consulté, et là, date des années 60-70 à peu près. Ces poissons et ces belles dames, et on reviendra à Dr. Shenki pour dire que le titre là, ça veut dire Docteur Nul. Mais Shenki, il l'a orthographié comme si c'était un nom aristocratique hongrois, donc avec. Mais ça a disparu là, l'explication linguistique. Ça veut dire que Shenki, S-E-N-K-H-Y, Janos, donc Dr. Shenki Janos, et le titre là, ce serait difficile à traduire avec le même jeu de mots. C'est un peu d'ailleurs le vaudeville. Et si on cherche des modèles littéraires, il ne faut pas aller très loin, parce que lui, il m'a mis l'explicite dans le texte. Que c'est le bel ami de Maupassant, enfin, qui lui a pas tellement servi de modèle, là je reviendrai juste là-dessus, en disant que c'est plutôt un sujet, donc, du monde de la presse, du monde politique et autre chose, mais il a fait des variations très hongroises, là, sur ce sujet-là, puisé un peu partout, parce que là, le sujet était dans l'air au début du XXe siècle. Dr. Shenki date de 1917, et c'est donc pendant la guerre, où il n'a pas pris part, enfin, pour des raisons personnelles, il avait une santé très, très, très fragile. Donc, dans le roman, Dr. Shenki est appelé bel homme. Parce que lui aussi, il y a même mon passant Anatole France qui était son écrivain préféré aussi. Donc il explicite la référence pour qu'on ne doive pas deviner, pour ainsi dire. Et puisque ce n'est pas tellement une limitation là. Donc je reviendrai là que les variations, c'est d'une part, ça l'intègre dans la littérature hongroise, mais aussi il y a un ratage à la fin justement parce qu'il a commencé à alourdir de messages sociaux et politiques qui ne laissent pas la même impression de légèreté comme la fin du Bel Ami, avec cette suspension, avec les mariages et tout. Donc il s'agit là, c'est un homme sans qualité. Musil, ça sera beaucoup plus tard, en 1933, mais il y avait donc Brody Sándor, Gottfried Keller, il y avait énormément de gens enfin, qui ont écrit sur le même type de personnage, ça veut dire complètement vide de l'intérieur. Et c'est le néant intérieur enfin, qui le prédispose à faire une, si vous voulez, une carrière fulgurante là, et dans le monde économique, journalistique et dans la politique après. Ça veut dire qu'il s'est sauté sur les hasards et il sera témoin de tas de choses. Il y a la bourse, les krachs et d'autres choses. Et il est donc se retrouve sans absolument aucune expérience de presse ou de journal. Et il sera employé dans une rédaction, enfin d'un journal qui est très vague et tout. Et puis après, l'un des reporters sera témoin d'une infragranté à peu près, dont il ne veut rien faire, mais alors lui, il saute l'occasion. Et comme ça, le journal est très chancelant, donc il est payé par le ministre enfin qui a été vu et photographié avec une maîtresse là. Il se laisse payer, il achète le journal et il en fait quelque chose enfin qui passera à toutes les couleurs politiques, par exemple libéral aussi, donc c'est de gauche, ensuite libéral et puis après bon. Et les hasards, là, lui aussi, il fait carrière grâce aux femmes. Il y a un très beau personnage féminin qui est un peu Madeleine Forestier, là, qui s'appelle Adèle, qui est la maîtresse du ministre, justement, qui tombe follement amoureuse de lui, de ce bel homme, parce qu'il est en plus... Donc, l'extérieur est absolument attachant et aguichant, et il n'y a rien à l'intérieur. Mais, enfin, si le roman se termine mal, si vous voulez, c'est qu'il se laisse aller à un seul sentiment amoureux, et c'est ce qui va faire éclater le personnage, parce que là, s'il y a une passion d'amour, enfin, qui lui est vouée, là, il reste à peu près indifférent, il se laisse aller, là. C'est cette maîtresse-là qui va lui aménager sa carrière, qui écrit aussi des articles, sa place, enfin, qui le fait adopter par un baron qui n'a pas d'enfant, et il sera élu aussi au Parlement, chez les libéraux, il s'occupe pas de politique du tout. Bon, mais elle meurt de tuberculose, et à ce moment-là, il fait un mariage, et cette femme-là, ça c'est une famille juive ultra riche, mais cette femme est une fille émancipée, donc qui prend la vengeance et fait un mariage blanc avec lui. Et puisqu'il est amoureux pour une fois, pour la première fois de sa vie, il provoque en duel l'amant de sa femme et il se fait tuer un peu à la façon de Valmont là, dans les liaisons dangereuses. Donc il se précipite dans l'épée et bon. Et les dernières, donc, et là ça alourdit un peu et le transforme en mélodrame. Une satire, mais vraiment tout à fait bien faite, dans un style conventionnel. Il est quand même, il connaît très très bien, il a un talent de caméléon incroyable. Donc que ce soit, c'est un peu Maupassant, donc c'est sur l'année quand même en 1917, que ce soit un peu la même façon de raconter l'histoire et d'employer des formules pareilles. Donc là, cette fin est quand même radoucie par un dialogue des imprimeurs correcteurs qui apprennent sa nomination comme secrétaire d'État au gouvernement et qui ne savent pas, qui n'ont pas encore appris la mort dans le duel et qui l'ont connu quand il était rien, absolument rien, le docteur nul, vraiment, et qui mettent ce dialogue là, mais dis donc, cet individu-là, il est nommé secrétaire d'État, mais c'était vraiment personne, c'est nul. Donc le dernier dialogue là, si vous voulez, là, ça rétablit un peu le côté satire sociale, parce que là, dans le roman, c'est uniquement les ouvriers, les travailleurs, donc les imprimeurs et les correcteurs, qui font tout le temps des commentaires là, sur les transformations absolument immorales et sans scrupules du journal aussi. Et puis après, aussi sa carrière, enfin, qui est plutôt celle d'un homme sans vergogne. Bon, alors le reste de l'œuvre, donc il y a quand même je dis quelques mots là sur les sketchs de cabaret, où il y a aussi des modèles allemands, viennois, mais français aussi, très important. Et il travaille avec Nadia André dans des cabarets La Bonbonnière et d'autres, dans les cabarets légendaires de Budapest dans les années d'entre-deux-guerres aussi, pour gagner sa vie déjà, parce qu'il a énormément travaillé pour gagner. Il fait lui-même l'histoire des boîtes de nuit de Budapest de l'entre-deux-guerres dans la préface d'un recueil de poèmes, Les Chansons Blanches, où il dit lui-même que le chat noir, les Quetzals, l'avant-garde littéraire française, ça leur a servi de modèle, mais ils ont quand même mis beaucoup de remarques et de plaisanteries et de jeux de mots assez cruels et même atroces là sur la politique. Donc tous ceux qui ont fait des commentaires et dans les mémoires, par exemple, ont dit que chaque jour l'actualité a été traitée sur le ton du sarcasme là dans ces cabarets. Et que dans ce cabaret-là, André André aussi a envoyé deux couplets, donc il était en bonne compagnie. Et donc il était parolier et scénariste, et alors là, c'est là vraiment qu'on ne se rend pas compte de son importance, mais quand même, il faut dire que c'est peut-être là, et c'est grotesque, parce que la Gorky, Maïakovski, Tchekhov, et comme vous voyez là, vraiment, son œuvre de traducteur est absolument. Génial, et le niveau est parfait, impeccable, mais c'est comme ça que d'une façon cachée ou souterraine, clandestine, disons, là, il fait partie de notre culture et il glisse dans la langue aussi, dans la langue même quotidienne, dans les conversations, des références, enfin, dont on ne se rend pas compte que ce sont des références française, allemande ou bien même viennoise. Bon, donc je vous remercie de votre attention.